Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Alors que ce week-end marquait le 100e anniversaire de l'attentat de Sarajevo contre François Ferdinand de Habsbourg, héritier du trône austro-hongrois qui allait conduire quelques semaines plus tard au déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'actualité du Moyen-Orient fait un étrange écho aux conséquences du conflit de 14-18 sur la région après l'effondrement de l'Empire ottoman. L'instabilité qui prévaut en Irak après l'offensive victorieuse des djihadistes dans le nord-ouest du pays fait craindre une conflagration sur fond de rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux puissances de la région, rivalité entre les deux branches de l'islam, sunnisme et chiisme, au point qu'on se demande si la région ne va pas être le théâtre d'un redécoupage. C'est bien en tout cas l'objectif de l'offensive de l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, qui s'est emparé d'une partie du territoire irakien tout en continuant de sévir en Syrie. Regard sur le chaos en Irak et autour, les recompositions d'alliances dans la région, leur rapprochement entre Washington et Téhéran. Nos invités, ils sont trois, Myriam Benrad, chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale Série Sciences Po et à l'ECFR. Bonjour.
Bonjour.
Gérard Chalian, spécialiste de l'étude des conflits armés, géopoliticien. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre-Jean Louisard, directeur de recherche au CNRS, historien de l'islam contemporain, qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait maintenant 3 semaines que la violence a éclaté en Irak. Les djihadistes se sont emparés d'une bonne partie du nord du pays. Ce week-end a vu le lancement d'une vaste opération militaire pour reprendre la ville de Tikrit, la ville de l'ancien dictateur Saddam Hussein, prise le 11 juin dernier par les insurgés de l'État islamique en Irak et au Levant. L'Irak réclame depuis plusieurs semaines des frappes aériennes américaines contre les insurgés, mais les États-Unis se sont pour l'instant contentés d'envoyer 300 conseillers militaires et d'annoncer un plan de 500 millions de dollars pour armer et entraîner des rebelles modérés en Syrie voisine afin qu'ils participent à la lutte en Irak contre l'EIL. En visite à Damas, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a affirmé que son pays ne resterait pas les bras croisés face à l'offensive des djihadistes en Irak. Qu'est-ce que l'évolution de la situation vous inspire à chacun ? Pierre-Jean Louisard, je commence avec vous, vous êtes au téléphone.
Alors, je crois qu'on est aujourd'hui effectivement à la croisée des chemins et vous le rappeliez, nous entrons dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale dont le Moyen-Orient actuel est très largement issu, qu'il s'agisse des frontières ou des États irakiens, syriens et libanais. Et il me semble que la situation chaotique que vit l'Irak aujourd'hui est très largement le fruit de l'échec à la fois du système étatique hérité de la période mandataire, donc française et britannique, et du projet américain de reconstruction de l'État en 2003 qui a été conçu sur des bases communautaires et non pas citoyennes.
Gérard Chalian.
En ce qui concerne le désir des djihadistes de refaire les frontières, je vous dirais simplement que pour refaire les frontières, il faut avoir gagné. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Donc, ça reste un projet et personnellement, j'attends de voir.
Myriam Benrad.
Il y a une logique de pourrissement sur le terrain irakien qui n'est pas seulement la conséquence de la Syrie. Il y a eu amplification du conflit du fait de la crise syrienne. Mais le pourrissement est à l'œuvre depuis plus de 10 ans maintenant en Irak, avec une mouvance djihadiste incarnée par l'État islamique d'Irak, devenu l'État islamique d'Irak et du Levant en 2013, qui est dans une logique de négation, de rejet des frontières nationales comme création coloniale, impie, mécréante, qu'il faut rejeter pour revenir à ce qui précédait, à savoir le califat musulman en l'espace sunnite et qui passe aussi, et c'est là la priorité des djihadistes, par l'élimination de l'influence chiite au Moyen-Orient, donc des chiites d'Irak, du régime, enfin des Alaouites, donc et du régime de Bachar el-Assad en Syrie, et bien évidemment de l'Iran, qui assez largement a été le principal vainqueur de la guerre d'Irak. Donc voilà un peu l'idéologie qui est celle aujourd'hui de cette organisation djihadiste.
Alors on va reparler bien sûr des rivalités entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pierre-Jean Louisard, j'aimerais rebondir sur ce que disait Myriam Benrad, le pourrissement depuis plus de 10 ans. Ce qu'on peut constater déjà pour commencer, c'est que finalement l'Irak a été complètement ignoré depuis le départ des Américains en 2011.
Alors, ignoré parce que effectivement, il y a eu une sorte de consensus après la victoire américaine de 2003, un consensus qui a réuni d'ailleurs autant les adversaires de la guerre que ceux qui y étaient favorables pour considérer les nouvelles autorités irakiennes comme légitimes. Mais on a vu très rapidement que si les Américains avaient réussi à reformer un semblant de gouvernement irakien à partir d'un attelage branlant d'ailleurs chiito-kurde, l'État irakien qui s'est effondré avec le régime de Saddam Hussein en 2003 n'a pas été véritablement reconstruit, et c'est probablement, il me semble, face à un défi dont on percevait bien l'ampleur, qu'on peut trouver les raisons de cette sorte de mutisme au niveau international face à une situation qui dont on voyait bien qu'elle était depuis 2003 à travers la guerre confessionnelle de 2005-2008, les attentats et l'incapacité du gouvernement central à rétablir une forme de souveraineté sur l'ensemble du territoire, dont on voyait bien qu'elle était dans une logique d'échec.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, Gérard Chalion, vous disiez tout à l'heure que les insurgés de l'EIL n'avaient pas gagné. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette offensive militaire sur Tikrit qui a démarré donc hier samedi? Vers quoi va-t-on, et est-ce que le gouvernement central qu'évoquait à l'instant Pierre-Jean Luzard a les moyens, avec l'appui notamment des Américains, mais qui pour l'instant n'offre qu'un soutien terrestre avec des 300 Américains qui ont été envoyés en Irak. Vers quoi va-t-on? Comment les choses? Comment peut-on vous imaginer que les choses vont se passer, Gérard Chalion?
D'abord, voyons pourquoi on en est arrivé là. D'abord parce que le gouvernement de M. Maliki a pratiqué une politique d'exclusion. Il a véritablement marginalisé tous les sunnites à l'échelle administrative et militaire. D'autre part, il a, du point de vue de l'armée, liquidé tout ce qu'il y avait comme officiers qui n'étaient pas des hommes liges. Il a placé sans aucune espèce de méritocratie des gens qui étaient à sa botte, ce qui a évidemment beaucoup pesé. Et troisièmement, la raison du succès des djihadistes, c'est que ce terrain qu'ils occupent à l'heure actuelle, c'est un terrain sunnite qui a été longuement préparé. Il faut quand même rappeler que dès 2003, il y a une résistance qui se lève et qui est sunnite, d'ailleurs créée par les erreurs américaines, c'est-à-dire que les Américains ont complètement marginalisé les sunnites au démarrage, avec M. Paul Bremer, qui était le proconsul de l'époque, qui a renvoyé l'armée, qui a dit que tout membre du parti basse ne pourrait pas faire partie de la future administration, c'est-à-dire que dès le début, il y a ce problème sunnite qui est posé, on les a liquidés, et ensuite on leur a dit, soyez gentils, rentrez. Mais entre-temps, les chiites, et notamment dès 2007, Monsieur Maliki était absolument pas prêt à coopter qui que ce soit. En somme, dans la région, si vous voulez, on a tendance à rafler la mise une fois qu'on a gagné. Donc, à l'heure actuelle, on va voir quelle est la capacité des troupes de Monsieur Maliki, qui ont été formées par les Américains, pendant de longues années. Ils ont formé pas très loin de 200 000 hommes. Bon. Sur le terrain sunnite, ils ont été surpris et battus, sans morale, sans logistique. Maintenant, on va voir leur capacité de réaction. Je trouve que c'est vraiment un peu gros de la part de M. Maliki de demander l'aide des Américains. Il a été formé, il dispose de 60% de la population. Il faut qu'il se débrouille tout seul.
Myriam Benrad.
Oui, il y a une marginalisation des sunnites depuis 2003 qui a contribué au pourrissement que j'évoquais tout à l'heure. Donc le démantèlement de l'armée en 2003, le fait qu'un certain nombre d'officiers, de soldats qui étaient pour la majorité sunnite depuis l'époque ottomane, qui composaient le cœur de l'armée irakienne, ont été jetés à la rue, ont pris les armes, ont constitué ce soulèvement anti-américain qui aujourd'hui est un soulèvement contre les chiites, contre le gouvernement et ses symboles. On a sur le plan politique eu une communautarisation de l'Irak qui a été le fruit de l'héritage bassiste et aussi assez largement, comme l'a dit Gérard Chalian, de la politique américaine qui a été une politique en fait improvisée sur le plan politique, puisqu'il n'était pas question d'ailleurs d'occuper durablement l'Irak au départ. Mais alors ce qui est intéressant, c'est finalement sur la question sunnite chiite, la question confessionnelle, c'est que les Américains avaient tablé sur les bons chiites d'Irak à l'époque, en croyant que porter au pouvoir les chiites permettrait d'avoir de bons démocrates à la place de ces sunnites qui ont été assez largement associés à la dictature de Saddam Hussein. Ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes historiographiques parce que cette question d'un État sunnite en Irak, il y avait une infrastructure sunnite, mais tous les sunnites n'ont pas milité dans les rangs du parti Baath et pour Saddam Hussein. Donc ce qui a aussi participé à cette rancœur sunnite après 2003 parce qu'ils ont eu l'impression finalement de payer pour les crimes d'un régime auquel souvent ils n'étaient pas directement associés. Les Américains ont confessionnalisé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que des bons démocrates chiites, finalement, est issu un pouvoir semi-autoritaire, ou voire même très ouvertement autoritaire, sous la conduite de Nouri al-Maliki, qui, depuis 2006, alors qu'il avait promis la réconciliation et d'amener à la table un certain nombre d'acteurs, a concentré le pouvoir. Dès 2010, a conduit un quasi-coup d'État en usurpant la victoire politique d'Alaoui, qui représentait une majorité de sunnites, pour former un gouvernement au sein duquel il occupait plusieurs postes. Il a fait main basse sur les forces armées. Alors il y a un problème aussi au niveau de l'armée, j'attends de voir comment justement les conseillers militaires américains vont gérer cela, parce qu'il y a, c'est pas seulement un problème de sous-entraînement et de sous-équipement, etc. Il y a un problème d'attache partisane au sein de cette armée, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments loyaux à Maliki, en tout cas à la coalition chiite au pouvoir. Ce n'est pas une armée nationale. Et d'où aussi le problème, si vous voulez, en termes de légitimité, de cette armée à aller conduire un certain nombre d'opérations dans le nord ou dans les provinces sunnites. D'ailleurs, ces mêmes sunnites considèrent qu'ils font l'objet, depuis de longs mois, d'abus, d'exactions de la part de ces forces de sécurité qui sont considérées comme une extension, finalement, d'un pouvoir, comme je l'ai dit, autoritaire et qui les réprime depuis 2003.
Donc, problème de motivation de l'armée irakienne, Pierre-Jean Luisard ?
Alors, il est certain que l'armée irakienne, qui a été reconstruite, l'a été sur des bases confessionnelles. Hein. Gérard Chalian a bien expliqué comment cette armée était loin de respecter les critères d'une armée dans un état de droit et qu'elle était basée essentiellement sur des réseaux confessionnels. Ceci dit, pour revenir sur la question du rôle des grandes puissances sur la confessionnalisation des conflits en Irak, il faut rappeler qu'elle n'est pas nouvelle. Les sunnites ont eu depuis 1920 le monopole du pouvoir. Ils l'ont eu grâce au choix que les Britanniques, la puissance mandataire, avaient fait donc de les considérer comme le pilier de ce nouvel État contre les chiites et contre les Kurdes. Et il faut rappeler que Saddam Hussein, qui a été le dernier avatar de ce système de domination ethnique et confessionnelle, a été l'allié stratégique des États-Unis à partir du moment où il a pris le pouvoir directement en 1979, que les grandes puissances l'ont soutenu dans ses répressions contre les Kurdes et contre les chiites, et surtout aussi, il faut le dire, dans sa guerre contre l'Iran. La guerre de 8 ans que Saddam Hussein a déclenchée a été une extension au-delà des frontières de l'Irak d'un conflit armé entre le gouvernement bassiste et un mouvement religieux chiite renaissant. Et donc on voit qu'il n'y a pas de tropisme particulier des Américains envers les chiites et les Kurdes. La reconstruction d'un État dans un pays comme l'Irak sous un régime d'occupation étrangère contraint l'occupant à avoir recours à des solidarités primaires. Il s'est trouvé que les chiites et les Kurdes, l'ex-opposition au régime de Saddam Hussein, Ben se sont présentés aux Américains pour occuper les postes à un moment où les sunnites étaient tétanisés par la perte d'un pouvoir qu'ils pensaient détenir, qu'ils détenaient depuis des siècles, depuis l'époque ottomane et même depuis bien plus longtemps que cela, et qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher. Je crois que c'est véritablement, il n'y a pas eu de choix politique de la part des Américains, parce que même si les Kurdes étaient les alliés potentiels des Occidentaux dans la région depuis déjà un certain temps, il était évident que les chiites ouvraient la voie à une influence iranienne que ces mêmes puissances occidentales tentaient de bloquer dans la région.
Gérard Chalian, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Pierre-Jean Luzard, et j'aimerais qu'on parle après des options du Premier ministre Maliki en Irak.
D'abord, je trouve que Luzard a très bien résumé la situation. On peut juste ajouter que, de façon paradoxale, les Américains, c'est-à-dire les néoconservateurs en 2003, qui plaçaient l'Iran comme le numéro un de l'axe du mal, ont finalement amené au pouvoir un allié de l'Iran. Paradoxe. Mmh. Aujourd'hui, les choses ayant changé, il y a un rapprochement relatif et tout à fait circonstanciel avec l'Iran, parce que finalement, la menace dans la région, ça semble plutôt être les djihadistes. Donc, il n'y a pas de véritable politique, sinon celle de l'arbitrage, pour voir comment se déroulent les opérations au fil d'alliances très fragiles et tout à fait circonstancielles. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Bon, eh bien, on peut dire que les États-Unis découvrent que l'Arabie Saoudite, maintenant que la guerre froide est finie et qu'ils étaient très utiles contre le communisme, joue une carte qui n'est pas précisément celle des États-Unis, et que pour rééquilibrer en quelque sorte la région, il ne faut pas marginaliser trop l'Iran, à condition évidemment que ce rival consente à un certain nombre de concessions sur le nucléaire. Donc c'est un jeu très subtil, très fluide. Quant aux djihadistes, il faut quand même rappeler que les sunnites ne sont pas tous djihadistes. C'est-à-dire que les djihadistes sunnites parlent au nom des sunnites comme s'ils les représentaient tous. C'est pas du tout le cas. Même à l'intérieur de la résistance, à l'intérieur de l'Irak, il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout, même s'ils sont aujourd'hui à leur côté, parce que circonstanciellement c'est utile, mais c'est pas ça qu'ils souhaitent. Donc leur califat, c'est un rêve, un utopie stimulante, mais ils l'auront pas. Le retour supposé à la grandeur des premiers siècles de l'islam, c'est un rêve qui peut peut-être mobiliser certains, mais je pense qu'ils se racontent des histoires.
Alors, Gérard Chalian parlait du rapprochement circonstanciel de Washington avec Téhéran. Myriam Benrad, qu'est-ce que l'on sait de la façon dont l'Iran perçoit ce qui se passe? En fait, on a assez peu de temps pour terminer cette première partie d'émission. Peut-être que je pose la question et que la réponse viendra dans la deuxième partie. Et quelles sont finalement les équations à la fois pour Riyad et pour Téhéran? Et qu'est-ce que l'on sait du dialogue entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Myriam Benrad.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dialogue irano-saoudien.
L'Iran est passé par l'Arabie Saoudite avant de quitter la région.
Oui, il y a cette volonté des Occidentaux de pousser, mais on est dans une logique de confrontation, donc il est peu probable en tout cas que ce dernier soit se produise à l'heure actuelle. Mais l'idée, c'est effectivement de régionaliser. Donc pour les Occidentaux, les États-Unis comme les Européens. Concernant l'Iran est dans une logique de maintien de son influence en Irak, puisque comme je l'ai dit, c'est le grand gagnant de la guerre d'Irak. Il y a d'autres enjeux, à savoir effectivement le sauvetage du régime de Bachar el-Assad en Syrie, le Liban, le Hezbollah. Alors il y a un axe chiite que les Iraniens conserveront par tous les moyens. Maintenant au niveau irakien, il y a des divisions entre chiites qui poussent l'Iran à essayer de favoriser une nouvelle alliance entre acteurs, même si aujourd'hui c'est compromis parce que Maliki s'est fait beaucoup d'ennemis, y compris parmi les chiites.
Alors justement, on va voir dans la deuxième partie de l'émission quelles sont les options de Monsieur Maliki. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Myriam Benrad, Gérard Chalian et Pierre-Jean Louisard dans quelques instants. À tout de suite.